Il est philosophe, cinéaste, écrivain, directeur des temps modernes. Son film Shoah est présenté en ce moment même au Japon et au Canada. Il est écrivain aussi, auteur d'une magistrale autobiographie intitulée « Le lièvre de Patagonie ». Son nouveau film Napalm sort cette semaine en salle. Il raconte l'histoire d'un coup de foudre en Corée du Nord. Claude Lanzmann nous a reçus chez lui il y a quelques jours, mais ce n'est pas de son film dont il nous a parlé, mais de son fils Félix qui vient de disparaître. Ce soir, l'heure bleue chez Claude Lanzmann.
Laure Adler sur France Inter.
Alors tout d'abord, il faut dire où nous sommes. Nous sommes chez vous, Claude Lanzmann, dans votre appartement, à côté de votre bureau. Vous êtes en face de votre ordinateur.
Oui.
À votre droite, il y a la photo de Félix qui vous regarde.
C'était à Berlin, ça. C'est quand j'ai eu l'ours d'or à Berlin. Il est venu. Donc je vis avec sa photo.
Peut-être ça serait bien de lire un court extrait d'une lettre que vous avez publiée dans la revue que vous dirigez depuis très longtemps, je crois 86 ou 87, revue prestigieuse « Les temps modernes ». Et en janvier-mars 2017, le numéro 692 s'est intitulé « Pour Félix Lanzmann », qui venait juste de disparaître. Il y a la photo de Félix et il y a un texte que vous avez publié en ouverture de ce numéro spécial de cette revue, où vous, vous commencez en disant « Cela ne se fait pas, un directeur n'ouvre pas un numéro de la revue qu'il dirige par une affaire strictement privée, même s'il s'agit d'une mort, en l'occurrence celle de son propre fils, emporté à 23 ans par un cancer impitoyable, après 2 ans et 3 mois d'une lutte héroïque contre la maladie. » Et ensuite, vous publiez un texte de votre fils, Félix.
C'est une lettre à son chirurgien.
Peut-être c'est mieux que vous la lisiez.
C'est un chirurgien qui l'a opéré 2 fois. Chaque opération a duré 8 heures. Et il s'est trouvé cette lettre très belle et c'était mieux de commencer par une lettre de mon fils. Par une lettre de Félix, c'était infiniment mieux que tout ce que j'aurais pu dire moi-même. C'est ce que j'ai pensé.
À un moment, dans une des lettres, il dit ceci à propos de vous. C'est le 25 février 2016. « Voilà qu'à 22 ans, comme projeté très loin en avant dans mon propre temps, je me retrouvais soudain avec la même espérance de vie que mon père qui en avait 90. C'était à couper le souffle, comme lorsqu'on lance une pierre après la légèreté aérienne du jet et le bruit fracassant du choc final, il se fit le silence, juste à l'orée du vide. »
C'est splendide. C'est splendide, et il y a autre chose. Je veux faire mettre ça sur la stèle de cette tombe, la stèle verticale, parce que il y a quelque chose de très beau que Félix dit dans cette lettre. Au chirurgien, il pensait que avoir un cancer et avoir le cancer qu'il avait, enfin, cancer mortel, dont la définition c'est sarcome desmoplastique, définition nominale. Desmoplastique à petites cellules rondes. On ne s'en sort pratiquement jamais. Bon, et lui disait ceci à un moment donné dans la lettre. Je voudrais dire aussi une chose qui pourra vous sembler inhabituelle. Dès le début de toute cette affaire, j'ai eu le sentiment formidable et vertigineux qu'enfin, dans la maladie, ma liberté pouvait naître. Face à la nuit éternelle, j'édictais ma propre loi. Ça, je trouve ça tellement splendide. Et c'est ça que je vais faire mettre sur la stèle pour Félix. Après, il restera peut-être un peu de place pour moi, mais...
Vous dites ça en souriant.
Oui, parce que ça va m'arriver, vite.
Bah, vite, ça, vous en savez rien, ça va tous nous arriver.
Oui. Mais enfin, je vais avoir 92 ans en novembre. Et de temps en temps, de jouer avec l'idée de vivre jusqu'à 100 ans, ça m'amusait. Mais c'est les 8 ans les plus difficiles.
Mais vous savez que c'est d'une banalité sans nom maintenant, être centenaire.
Oui.
C'est très facile.
C'est pas si facile que ça, quand même. Non.
I'm in love again with my old pain, with my old pain. Save me from the same perpetual game of my own name. Every town the weeping willow dances in the breeze. Please remind everybody that I smile with ease. Not too long ago. So honey, don't let go. Of what you know of me. I am dressed to kill. And my old skin, and my old skin. Save me from the same primordial sin that's deep within. Every time them hungry waves come dancing in the sand, please remind this broken shell it used to be a man. Not too long ago. So honey, don't let go. Of what you know me. Take heed of the ocean and the sand of the storm, and whisper the west wind and guide me back.
Il vous reste beaucoup de choses à faire.
Beaucoup. Et je travaille comme un forçat. Là, je vais... J'ai l'avant-première de mon dernier film qui s'appelle Napalm, qui se passe en Corée du Nord. Et j'ai un autre film qui est sélectionné par le Festival de New York, qui s'appelle Les Quatre Sœurs, qui c'est un film, tu ne cesses pas de pleurer pendant à peu près 5 heures.
On ne l'a pas encore vu, celui-là.
Dans l'épisode, non.
Et ce sont des dames qui se souviennent.
Ce sont des dames qui ont vécu des juives belles et qui ont vécu l'acmé, le sommet de l'horreur, vraiment. Chacune à sa façon. Et en même temps, quand elle raconte, je les fais raconter, ça se passe d'une façon telle que le sommet de l'horreur est en même temps le sommet de l'intelligence. Et les gens qui commencent à voir pleurent tout le temps. Même moi qui le connais par cœur, puisque c'est moi qui l'ai fait, je ne peux pas le voir sans être inondé de larmes. Donc tu as ça. Donc, je travaille en ce moment. Je vais à Saint-Pétersbourg. Ils vont me faire grand maître. J'exige que désormais on m'appelle grand maître. Ils vont me faire grand maître à Saint-Pétersbourg. Je vais à Hambourg, parce que je suis sélectionné par le festival de Hambourg. Et puis à New York.
Ça vous importe, Claude Lanzmann, d'être reconnu? Ou est-ce que vous avez encore besoin d'être reconnu? Tout le monde vous connaît?
Oui, tout le monde me connaît beaucoup.
Mais vous avez encore besoin de signes de reconnaissance?
C'est pas désagréable. Tiens, j'ai reçu ça hier. C'est en allemand. Parce que j'étais lecteur à l'université de Berlin.
Après la guerre.
En 1948. Et alors ils ont voulu, pour mes 90 ans, faire une grande célébration à Berlin. Alors ils l'ont fait, tout ça, ce sont des gens qui ont écrit en allemand. Sur moi, il y a des textes magnifiques.
Mais vous en avez vraiment besoin de ces signes de reconnaissance?
Non, le mot besoin n'est pas juste, mais je ne vois pas pourquoi ça ne me ferait pas plaisir.
Mais par exemple, il y a eu récemment, il y a moins de 6 mois, je crois, aux éditions Gallimard, un livre collectif qui a été fait en votre honneur, qui s'intitule tout simplement Claude Lanzmann.
Non, il s'intitule Claude Lanzmann, voyant dans le siècle.
Ça, c'est le sous-titre. Et bon, les plus grands cinéastes d'aujourd'hui vous rendent hommage.
Oui.
Parmi eux, il y a justement Arnaud Desplechin, dont le dernier film qui a fait l'ouverture du Festival de Cannes.
Oui.
Et qui a obtenu d'ailleurs un très grand succès ensuite en salle, raconte votre histoire. Bref, les signes de reconnaissance, vous les avez depuis Shoah.
Ben oui.
Ça n'a pas cessé.
Ben non.
Oui, mais avant, vous n'étiez pas cinéaste, Claude Lanzmann.
Oui, mais enfin, les deux choses se sont combinées, à la fois le cinéma et l'écriture.
Oui, mais pendant plus de 35 ans, vous avez exercé des activités d'écriture, de journaliste, de témoin engagé dans votre siècle, sans penser prendre la caméra pour dire l'état du monde.
Mais je l'ai fait.
Oui, mais qu'est-ce qui s'est passé à ce moment-là, dans le basculement de la nécessité d'avoir une caméra?
Mais j'avais déjà fait des choses quand même pour la télévision. Et j'aimais ça. J'aimais ça et j'avais fait essentiellement des reportages de guerre, en pleine guerre. Et ces reportages, je trouvais ça bien, mais comme je ne les avais pas montés moi-même, parce que c'était pas la loi à la télévision, ça me gênait. Et je voulais, je savais que si je montais moi-même, ce serait tout à fait différent. Et en effet, je l'ai vérifié et j'ai fait du cinéma, j'ai tourné parce que j'aimais monter. C'est très important, ça.
Comment vous définiriez l'art du montage, vous qui avez tourné combien de centaines d'heures avant le montage définitif de Shoah? Il y avait combien de rushs?
J'en sais rien, j'ai jamais compté exactement, plus de 300 en tous les cas. Mais le problème, si on réfléchit à ça, et ça, c'est pas quelque chose que j'ai compris immédiatement, je dirais même qu'il m'a fallu beaucoup de temps pour le comprendre. En fait, j'ai fait Shoah, mais ça n'était pas mon dessin fondamental. Parce que quand j'ai tourné avec Benjamin Murmelstein, ça voulait dire quoi ce que je faisais? Parce que j'ai tourné avec lui pendant une semaine entière, à Rome, le matin, l'après-midi, quelquefois, le soir. Et est-ce qu'il y avait un producteur assez fou pour supporter tout ça, pour porter tout ça, pour payer tout ça? Et est-ce que moi j'étais assez fou pour imaginer que j'allais faire un film avec ça? Mais c'est pas... J'ai compris il y a 2 ans à peu près, à Amsterdam, à la librairie française d'Amsterdam, ce que j'avais voulu faire. J'ai fait Shoah, mais c'est pas Shoah que je voulais faire. Ce que je voulais faire, c'est... J'étais tellement saisi, pris, parce que j'entendais, parce que je voyais, que je me foutais absolument du dessin de ces paroles. Je voulais accumuler le plus possible de paroles, de récits, comme si je pensais que si je ne le faisais pas, ça se perdrait. Pour moi, c'était des trésors que je mettais bout à bout. Je ne savais pas du tout ce que je ferais avec, mais c'était là.
Questa è mio nipote, anche lui l'hanno bruciato a Bichelnau. 2 ragazzi del mio fratello l'hanno preso al crematorio con la sua mamma, con tutti l'hanno bruciato a Bichelnau. Mio fratello aveva malato e l'hanno messo al forno, al crematorio, e l'hanno bruciato. Questa è Bichelnau.
Et la meilleure preuve de ce que je dis, c'est que j'ai fait beaucoup de films avec ce matériel. Parce que j'ai pas seulement fait Shoah, j'ai fait au moins 6 films ou 7 films après, des vrais films. Et par exemple, celui qui n'est pas encore sorti, Les 4 sœurs, donne quelque chose sur la Shoah qu'on ne connaît pas. On ne connaît pas, et 35 ans après. Et grâce à cette folie qui était la mienne, on va la connaître maintenant. Vous comprenez ce que je dis?
Ben, je comprends, parce que comme beaucoup de personnes, j'ai vu Shoah de très nombreuses fois, et c'est très bien d'ailleurs qu'on puisse encore le voir et que des jeunes générations ne l'aient pas encore vu et vont pouvoir le découvrir. Et que c'est inépuisable. Ce n'est pas un récit fermé. Donc il y a quelque chose de l'ordre de l'ouverture, de l'illimité, de la résistance intérieure.
Je ne sais pas si...
Qu'est-ce que vous faites là? Vous êtes avec votre portable?
Oui, non, mais je veux trouver quelque chose qui va... Tu vois, ça, pour moi, c'est très bouleversant.
Alors donc, suis en train de regarder le portable, le iPhone, quand même, hein, le iPhone le plus high-tech hein, de Claude Lanzmann, au passage.
C'est
et je vois une photo...
C'est à Vienne, il y a 3 mois.
De Monsieur Claude lui-même,
oui,
en train de faire une conférence.
C'était bondé, il y avait 1000 personnes dans le plus grand amphithéâtre de l'université de Vienne. Et ce qui est frappant, c'est que ce sont tous des jeunes gens. Eh bien, c'était...
Ils venaient de voir Shoah.
Oui, ils avaient vu Shoah.
Et ce sont des étudiants.
Des étudiants. Ils avaient vu quelques autres films de moi.
Alors, revenons à ce mot de Shoah, parce que je crois que c'est très important préciser.
Ça, pour moi, c'est... capital. C'est le...
Qu'en Autriche, Shoah soit vu par les plus jeunes. Mais il n'y a pas qu'en Autriche.
Par les plus jeunes et c'était bondé. Ils étaient enthousiastes. J'ai parlé pendant presque 3 heures. Là, j'étais vraiment très fier. Et je comprenais que ce que j'avais fait avait un sens.
Est-ce que c'est un film qui vous dépasse ?
Pour moi, ça ne veut rien dire.
Ben si, ça veut dire que vous avez dit tout à l'heure que ce n'était pas ça que vous vouliez faire. Est-ce que ce film est polyphonique ?
Je voulais dire que je faisais un anti-film, c'était le contraire d'un film. Parce que personne ne pouvait financer ça, ne pouvait le publier, etc. J'ai quand même travaillé 12 ans pour ça. 12 ans, c'est-à-dire que d'une certaine façon, je comprenais quelle était ma situation et ce que je faisais. Je ne suis pas du tout contre le fait qu'on dise que j'étais fou, sûrement. J'étais fou, je dois l'être encore, d'ailleurs, et j'espère bien. Et tu dis que j'ai réhabilité le mot Shoah, non, c'est très important, la question du nom. Parce que comment est-ce qu'il y aurait pu avoir un nom pour ce qui s'est passé, qui n'avait jamais existé dans l'histoire des hommes? Il n'y avait pas de nom. Alors quelques juifs religieux ont trouvé dans la Torah, dans la Bible, le mot Shoah, mais qui signifie catastrophe, ça peut être un tremblement de terre, ça peut être un tsunami. Il n'y avait pas de mot pour l'horreur accomplie par les nazis. En hébreu, on dit Shoah. Bon. Et Shoah a été traduit par Holocauste, etc. Il n'y a que ces imbéciles d'Américains pour avoir voulu continuer à garder ça, garder ce mot, alors que c'est vraiment tout sauf un holocauste. On offre des agneaux, un holocauste, des béliers, c'était pas ça. Et j'ai vécu pendant ces 12 années sans nom pour le travail que j'accomplissais. Je n'avais pas de nom. Et quand le film a été prêt et qu'il fallait le sortir sans argent en plus, parce que je n'avais pas un centime, rien, et alors il a fallu faire des cartons d'invitation, et le spécialiste des cartons d'invitation pour tous les films d'horreur ou pas d'horreur, ou d'amour ou de sexe, c'était Georges Craven. Bon. Alors, très gentil. Et Craven, à un moment donné, me dit, mais après tout, quel titre tu donnes à ça? Alors je dis Shoah, mais c'est compliqué parce que Shoah n'est pas juste non plus. Parce qu'il n'y a pas de nom. Et j'étais pas follement content de Shoah, mais j'étais encore moins content des autres, de Holocauste ou de je ne sais quoi encore. Alors j'ai dit Shoah. Il me dit, ça veut dire quoi? Mais ça veut dire Shoah. Mais enfin, tu es fou, personne ne comprendra, enfin, etc. Je dis, mais oui, personne ne comprendra. C'est sûrement ce que je veux, et c'est la raison pour laquelle c'est le titre qu'on va prendre et qu'on va garder. Alors, il pensait que j'étais vraiment malade mental. Et puis, le miracle, c'est que ça a été tout de suite éponyme. Ça a été Shoah. Alors on me dit quelquefois Lanzmann, auteur de la Shoah. Je dis non, l'auteur de la Shoah, c'est un certain Adolf Hitler. Moi, je suis auteur de Shoah. Ça n'a rien à voir. Et alors voilà. Et alors il est venu me voir après en me disant, ah, comme tu as bien fait, parce qu'il c'était un communicateur. Pensais que c'était le nom qui faisait le succès du film. Un peu. Mais tiens, il y a un truc qui me bouleverse beaucoup, là.
Alors là, vous ouvrez de nouveau votre ordinateur, qui n'était pas fermé, d'ailleurs. Il y en a des choses, hein, sur votre ordi, là.
C'est la queue pour Shoah à Tokyo.
Regarde. Oui, je vois. Ah, ils sont jeunes aussi.
Ils sont jeunes.
C'est des étudiants.
Ils sont jeunes et ils sont extraordinaires. Parce que pendant les week-ends...
Ils font la queue pour aller voir Shoah, mais oui. Ils lisent en même temps qu'ils font la queue.
Ils lisent des...
Ils perdent pas de temps.
Qui peut-être concernent Shoah ou d'autres, j'en sais rien. Sûrement pas de la littérature porno, je crois pas. Et alors, ça commence à 10h du soir. Il commence très tard le soir, à 10h. Et il voit le film toute la nuit. Intégral, sans coupure et sans... Il y a peut-être... pour leur permettre d'aller pisser, enfin. Quelques interruptions, mais c'est tout. Et puis une fois que c'est fini, le lendemain matin, vers 10h à nouveau, ça recommence. Ils ont l'esprit aigu, très frais, je suis là, et ils me posent des questions. Et ça dure 3h.
Et vous, Claude Lanzmann, ce film, aujourd'hui, vous étonne encore quand vous le revoyez?
Oui. Je ne le revois pas assez, mais chaque fois que je le revois, je le trouve formidable. Parce que c'est... Je n'ai pas fui les choses en faisant ça. J'ai affronté des difficultés.
Now I go back 35 years. No, I don't go back, you know, as a matter of fact. No. Okay, I can't.
Thank you.
Et pourquoi vous continuez à filmer alors? Parce qu'il y a ce film-là, Napalm, qui sort, qui est absolument stupéfiant, puisque c'est un projet qui était déjà inscrit dans les pages de ce très beau livre que oui. vous n'avez pas écrit, mais que pourtant vous avez publié.
Comment que j'ai pas écrit?
C'est ce que vous dites dans le début du livre.
Je l'ai dicté.
Voilà, c'est ce que vous dites, c'est pas moi qui essaye de vous critiquer, j'aime ce livre.
Attention, je l'ai dicté, mais je l'ai écrit.
Voilà ce que vous dites dans l'avant-propos de ce très beau livre. J'ai beaucoup écrit la main à la plume au long de ma vie, pourtant j'ai entièrement dicté ce livre.
Oui.
Donc c'est un livre que vous avez pensé, mais que vous n'avez pas écrit ni à l'ordinateur, ni à la plume.
Je l'ai dicté.
Oui.
Je l'ai dicté, mais c'est quand même mes paroles et mes pensées.
Mais vous avez de la suite dans les idées, puisque justement, dans ce très beau livre, Claude Lanzmann, vous parlez de cet épisode. De l'épisode de Napalm et de ce qui vous est arrivé en Corée du Nord.
Oui,
en 1958.
Oui.
Alors moi, j'aimerais bien savoir comment fonctionne votre mémoire et comment, de 1958 à 2017, vous avez réussi à garder intact physiquement, biologiquement, intellectuellement, sensuellement, tout ce qui s'est passé dans la rencontre amoureuse en Corée du Nord.
La rencontre amoureuse, c'était une brève rencontre, une très brève rencontre.
C'est peut-être les meilleures.
Non, ça, j'en sais rien. Ça a duré de 10h du matin à 6h du soir. Et il n'y a pas eu de consommation. Rien. Et je l'ai très peu raconté, cette histoire. J'ai dû la raconter 3 fois ou 4 fois à des amis, après à peu d'amis, après un dîner, ou pendant un dîner. Et tous me disaient, mais quel film ce serait? Et je ne l'avais même pas écrit encore, ou dicté. Et je le pensais moi-même. Je me disais, ça, quand ils n'ont aucun langage commun, elles parlent peut-être chinois ou russe, et lui parle, moi, je parlais anglais, un peu allemand, etc. Donc aucune langue commune. Et la seule langue, le seul mot que nous avons eu en commun, c'est le mot napalm. Napalm, elle comprenait, et moi aussi. Bon, c'est pour ça que j'ai décidé d'appeler le film Napalm.
Enfin, vous êtes quand même un coquin, hein, Claude Lanzmann.
Pourquoi?
Parce que la femme que vous avez rencontrée et avec qui s'est passée cette histoire d'amour à Pyongyang, donc en Corée du Nord, en 1958... Elle est infirmière et tout de suite vous tombez amoureux, je crois qu'on peut prononcer ce mot, d'elle, de sa grâce, de sa beauté, de son élégance morale.
Je la désirais physiquement comme un...
Et vous devez recevoir des piqûres d'elle. Et comme vous voulez la voir à part, vous demandez que la piqûre soit le plus tard possible. Car vous voulez profiter d'un temps maximal avec elle.
Non, c'est pas
si,
du tout ça.
Mais c'est ce que vous écrivez dans le livre de Patagonie.
Tout. Non, c'est inventé, ça, ce que vous dites.
C'est ce que vous écrivez. L'injection ultime devait avoir lieu le lendemain, l'injection ultime de votre séance de piqûre avec l'infirmière. Je demandais s'il serait possible que l'heure en fût reculée, 10h du matin par exemple, au lieu de 8, car je souhaitais profiter du jour du Seigneur pour dormir un peu plus longtemps. Non, pas pour dormir, mais pour passer du temps avec elle.
Non.
Et pour ensuite.
Je voulais dormir, j'étais fatigué.
Oui, mais ensuite, vous l'emmenez pique-niquer.
Ensuite, vous comprenez pas du tout, apparemment.
Ah bon? Écoutez, je lis vos mots et j'ai vu votre film.
Non, mais vous n'avez pas compris.
Il s'est passé quelque chose à la sortie de la chambre d'hôtel, non?
C'est pas comme ça.
Ah bon?
Elle est. Je raconte qu'elle m'a piqué pendant toute une semaine.
Oui. Tous les jours. Là, on est au dernier jour, oui.
Tous les jours, et qu'il y avait tout le temps des types de la sécurité qui étaient là, et que, oui, que j'appelle des casquettes, parce qu'ils avaient des casquettes de baseball. Et ils surveillaient le moment où elle me piquait le gras de la fesse. Et j'ai dit non, ça ne se fait pas chez moi. Les étrangers ne se font pas piquer en public. Et puis le dernier jour, elle était seule, métamorphosée, n'avait plus de costume national. Elle avait du rouge à lèvres, elle avait les cheveux en torsade. Elle était somptueuse, elle avait des perles de sueur, parce qu'il faisait très chaud, sur la lèvre supérieure. Elle était formidablement bandante, excusez-moi. Bon, et moi, il ne faut pas me pousser tellement pour me faire bander. Et alors, nous sommes restés tous les deux seuls, porte grande ouverte, parce que je me disais, si jamais ils arrivent et qu'ils la voient coucher dans un lit avec moi, ils la tueront, elle aura un procès, etc. J'avais peur, non pas pour moi, mais pour elle. Donc je me suis dit, il n'y a qu'une chose à faire, je la fous dehors et je lui donne un rendez-vous plus tard, ce que j'ai fait. Elle ne voulait pas que je la foute dehors. Alors je l'ai foutue dehors, partez, partez, alors elle voulait me réembrasser encore. Je lui plaisais, hein. Elle me plaisait, mais c'était partagé, c'était réciproque. Alors j'ai fait, tout ça aussi est très cinématographique. Il était à peu près 10 et 11 heures du matin. J'ai pris ma montre, j'ai changé devant elle la place des aiguilles. J'ai été sur 14 heures, je l'ai emmené à la fenêtre, je lui ai montré, on était juste à l'embouchure d'un pont. Et c'est le pont. Et je lui ai insisté en tapant sur son sein, dont j'ignorais qu'il avait été brûlé, avec ma montre. Elle a compris que je lui donnais rendez-vous à 2 heures de l'après-midi à l'embouchure du pont. Et quand elle est partie, après avoir été jetée littéralement par moi, je me suis dit, mais tu es fou. Tu es fou, elle ne viendra pas, elle ne peut pas venir, c'est impossible. Alors je me suis procuré de quoi écrire pour parler avec elle. Il fallait inventer un langage, des dessins. Et puis, à 2 heures de l'après-midi, j'étais à l'embouchure du pont. J'attendais, mais je n'ai pas eu à attendre. Elle était déjà là, avant moi.
L'heure bleue sur France Inter.
J'étais jeune, alors. J'avais 33 ans. Je croyais à la santé. J'avais un ami à Paris qui était un grand médecin. Il m'a dit, mais ce sera un voyage difficile, tu risques de grandes fatigues, emmène avec toi de la vitamine B12, 1000 gamma. Et après quasiment un mois de ce régime crevant, soudain je me suis souvenu de mes deux boîtes de vitamine B12. Et j'ai dit à Hawk, écoutez, je suis un peu fatigué, un peu faible, il faudrait que je puisse aller à l'hôpital me faire piquer. Alors il a pris la prescription, il m'a dit non, vous n'allez pas à l'hôpital, c'est l'hôpital qui ira à vous. Et il agit sur l'heure en me disant demain matin à 8 heures, on viendra vous faire la première piqûre. Et vous aurez une piqûre par jour. C'était l'été. Il faisait chaud. À 8 heures, on frappe à la porte de ma chambre. Je vais, j'étais en pyjama. J'ouvre et je vois la Hawk, donc l'interprète, une infirmière en costume national. Le costume national, c'est deux longues nattes qui descendent jusqu'au rein, et puis un sarrau qui enserre et comprime la poitrine. J'ai vu immédiatement que cette Coréenne avait quelque chose pour moi de passionnant, de fascinant. Elle avait un très très beau visage, le corps semblait splendide. Elle tenait les yeux baissés, mais on voyait la brillance de son regard à travers le filtre des paupières.
Ce qui est incroyable, Claude Lanzmann, c'est que quand vous avez fait le film, vous êtes allé en Corée du Nord, alors qu'il est interdit d'y filmer, mais vous avez défié et transgressé.
Il me tenait comme ça. J'étais quasiment menotté.
Pour faire le film ?
Oui. Ils me tiennent tout le temps les mains. J'avais très mal au...
Oui, mais vous l'avez quand même fait, le film.
Au poignet, oui. Oui.
Et vous n'avez pas cherché à la revoir, savoir si elle était vivante ?
Impossible.
Pourquoi ?
Parce que ça m'est arrivé déjà dans ma vie de voir vieillir des femmes que j'ai aimées jeunes, et c'est une expérience que je ne conseille à aucun homme de faire.
Mais vous croyez pas que vous vieillissez, vous aussi ?
Oui, mais ça me gêne pas, moi.
Peut-être les femmes, elles pensent la même chose que vous.
Peut-être.
C'est pas forcément toujours dans le même sens.
Non, peut-être qu'elles pensent la même chose, en tout cas.
Pensez qu'elle vous aurait déçu ?
Elle m'aurait pas déçu, mais on ne désire pas une vieille dame comme on désire une jeune fille, hélas.
Oui, mais moi, j'ai pas compris votre film comme ça. J'ai compris le film comme une sorte d'éloge de l'amour.
Mais c'est un éloge de l'amour.
Mais de l'éternité de l'amour.
Mais c'est un éloge de l'amour et de l'éternité de l'amour. D'ailleurs, je parle beaucoup de l'éternité dans ce film. Le désir, ce que j'appelle le désir d'éternité. Les deux géants, là, c'est le désir d'éternité.
Vous parlez de qui ?
Kim Il-sung et Kim Jong-il.
Peut-être, lui, il pense, avec ses histoires de bombes, il pense peut-être qu'il va accéder à l'éternité. Mais ce qui est incroyable chez vous...
Mais il est dans l'éternité, déjà.
C'est ce que vous dites dans le film. Il est dans l'éternité avec sa statue.
Il ne peut pas mourir. Il ne peut pas mourir. Personne ne comprend ça.
Ça vous plaît bien, cette idée, d'ailleurs, hein ?
Oui. Personne ne comprend ça, d'ailleurs. Et c'est dommage.
Et c'est vrai que dans le film Napalm, vous dites à plusieurs reprises que cette éternité-là, elle est assez enviable.
Enviable ?
Oui.
Mais c'est l'éternité des pyramides, c'est l'éternité de ce qui se passe à Louxor, à Thèbes. Tout ce que ces gens faisaient dans leur vie vivante, c'était répété. Il y avait la nourriture, il y avait tout. C'était une guerre à la mort, une guerre à mort à la mort. Enfin, et je trouve ça tout à fait formidable. Moi, je pense pas du tout qu'ils balanceront. L'arme nucléaire, je n'en crois pas un mot. Mais la guerre à la mort, ils la font.
Et vous, c'est en faisant du cinéma que vous pouvez la poursuivre, cette guerre à la mort ?
Je poursuis, en tout cas. Je poursuis. En faisant du cinéma, oui, en faisant du cinéma, entre travaillant, en écrivant des livres, j'en écrirai encore. Que je ne dicterai pas, d'accord ?
Vous venez de prononcer un mot, Claude Lanzmann, très étrange. Vous avez dit la vie vivante. C'est quoi la vie vivante ?
La vie vivante, c'est la vie sans la mort. quand il déjeunait ou quand il dînait, ces grands génies qui étaient les... pas tous, mais la plupart, les pharaons, c'était véritablement quelque chose. Et ils ont, dès qu'ils sont morts, ils ont dupliqué entièrement ce qui se passait dans leur vie vivante.
Et vous croyez à l'au-delà ?
Pas du tout. Ah, mais pas du tout. Cette construction chrétienne effroyable, enfin. Mais en tout cas, ça marche. La construction chrétienne.
À la fin du Lièvre de Patagonie, vous écrivez ceci, Claude Lanzmann. Pourquoi ai-je soudainement décidé de donner à mon livre ce titre insolite, Le Lièvre de Patagonie ? J'avais pensé longtemps l'appeler la jeunesse du monde, sans opposition aucune entre le monde et moi, ma propre jeunesse ou mon âge aujourd'hui. Je n'ai jamais songé au fil des années accumulées à me dissocier de l'époque présente, à dire par exemple de mon temps. Mon temps est absolument celui dans lequel je vis, et même si le monde me plaît de moins en moins, et il y a de quoi, c'est le mien absolument. Ni retraite, ni retrait, je ne sais pas ce que c'est que vieillir, et c'est d'abord ma jeunesse qui est garante de celle du monde.
Oui, c'est très bien.
Ben, j'ai l'impression que vous êtes encore très très jeune.
Mais moi aussi. Moi aussi. Mais c'est pas de ma faute. Je ne me sens pas vieux.
Alors vive le jeune Claude Lanzmann. Est-ce que je peux vous demander une faveur, Claude Lanzmann ?
Ça dépend laquelle. Si c'est coucher avec moi, oui.
Non, c'est un petit bout de la légende des siècles.
Oh ben oui.
Alors faut dire à nos auditeurs que Claude Lanzmann, on l'a compris pendant cette émission, a une mémoire dingue, mais aussi des grands poèmes et un amour immodéré pour Victor Hugo.
Charlemagne, empereur à la barbe fleurie, revient d'Espagne. Il a le cœur triste, il s'écrie « Roncevaux, Roncevaux, ô traître Ganelon !» Car son neveu Roland est mort dans ce vallon, avec les 12 pères et toute son armée. Le laboureur des monts qui vit sous la ramée est rentré chez lui grave et calme avec son chien. Il a baisé sa femme au front et dit « C'est bien !» Il a lavé sa trompe et son ac aux fontaines, et les os des héros blanchissent dans les plaines.
Mais je vois que la mémoire fonctionne bien.
Très bien.
C'est dingue.
Très bien.
She knows a good thing more. With all my love and darkening her door. In my hair and in my thoughts. In my hair and in my thoughts. We spend the whole day so. We're feeling more apart. And we know we can do more. Please don't let me hurt you more. It's in your stare and at your call. Please don't let me hurt you more. Please don't let it hurt you more. I know this journey soon. The color of our light. And our lives they can resume. Please don't let it hurt you more. It's in your stare and at your call. Thank you.
Merci Claude Lanzmann et merci à toute l'équipe de L'Heure Bleue, à Pauline Laverdure qui était à la technique ce soir, à Benjamin Riquet qui a réalisé cette émission, à Élodie Royer et Anne-Sophie Dazard qui l'ont préparée, et à Jean-Baptiste Audibert pour la musique. Et comme chaque vendredi soir, eh bien, après le prochain journal de la rédaction, vous avez rendez-vous avec Didier Varro pour ça, notre foule sentimentale.